Fait responsable, issu du commerce direct, fraîchement torréfié, bien préparé et délicieux. Viens nous voir au 198 rue Hermine, quartier Saint-Sauveur, et rapporte du café en grains pour la maison.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Julianne Perrault et voici votre bulletin du vendredi 22 mai 2026. L'organisme Alter Justice a annoncé le retour d'Artis Judiciali. À travers une exposition d'œuvres percutantes et des panels de discussion, l'activité met en lumière les expériences trop souvent invisibilisées des personnes judiciarisées. Pour sa 8e édition, l'organisme invite les personnes judiciarisées ou des personnes qui travaillent en justice criminelle à partager leurs talents, que ce soit le dessin, l'aquarelle, la sculpture, le slam, la musique, tous les types d'art sont les bienvenus. Le thème de cette année, les visages d'une justice en transformation. La date limite de remise des œuvres est le 11 septembre 2026. L'exposition se tiendra en octobre. Tous les détails au alterjustice.org. Le 30 mai, une version scénique d'une partie des histoires d'autobus sera présentée à la Maison de la littérature dès 17h. La conteuse Geneviève Marié et différents artistes viendront raconter des histoires vécues dans l'autobus. Les artisans témoigneront du vivre ensemble. C'est gratuit et sous réservation. Si les témoignages vous interpellent, vous allez pouvoir aussi prendre le micro et partager votre expérience. Le 20 mai dernier, plus de 700 élèves du Collège Mariste de Québec ont pris part à la 32e édition du 5 km Espoir Michel Sarrazin. Grâce à leur mobilisation, un montant de 61 545 $ a été ramassé au profit de la Fondation Michel Sarrazin. L'initiative rassemble les jeunes autour d'une cause, celle de permettre à des personnes atteintes de cancer et leurs proches un accompagnement palliatif digne et humain. À l'approche de la première partie des Capitales de Québec au stade Canac qui aura lieu le 26 mai prochain, la Ville de Québec présente les différentes options qui seront graduellement mises à la disposition des citoyennes et citoyennes pour se déplacer et se stationner dans le secteur pendant la saison de baseball. Les fans auront accès notamment à 200 places de stationnement supplémentaires les soirs de match au stade et des passages piétonniers sécurisés seront mis en place pour remplacer les passerelles démolies. Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville. Et finalement, c'est aujourd'hui que CKIA fera son émission en direct au Parc quartier Brébeuf dans le cadre de l'Agora pour un Québec sans pauvreté. C'est l'occasion d'entendre des prestations musicales de Coralie Laperrière, Véronica Rioux, Kenlo, Sarah May. L'événement se conclut par une manifestation nationale demain dès 9h. Le collectif pour un Québec sans pauvreté vous invite à ce rassemblement familial et accessible. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une belle journée en antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Premier été, je ne lus aucun livre. Je sarclais mes haricots. Que dis-je? Je fis souvent mieux que ça. Il y eut des moments où je ne pouvais me permettre de sacrifier l'éclat de l'instant présent à aucun type de travail, qu'il fût intellectuel ou manuel. J'aime vivre ma vie avec beaucoup de marge. Parfois, par un matin d'été, après avoir pris mon bain quotidien, je m'asseyais sur le seuil ensoleillé de ma porte et y restais de l'aube jusqu'au midi, plongé dans ma rêverie, parmi les pins, les carriers et les sumacs, dans une quiétude et une solitude que rien ne venait troubler, tandis que les oiseaux chantaient ou voltaient furtivement à travers la maison, jusqu'à ce que le soleil tombant par ma fenêtre occidentale ou le bruit du chariot de quelques voyageurs sur la lointaine grande route me rappela le passage du temps. Pendant ces moments-là, je grandissais comme grandit le maïs à vue d'œil, et ces moments étaient bien plus valables qu'eût jamais pu l'être le résultat d'aucun labeur manuel. Il ne venait pas se soustraire à ma vie, mais au contraire s'y ajoutait comme un bonus incroyablement riche en sus de mon allocation de base. Je comprenais ce que les Orientaux entendent par la contemplation et l'oubli des travaux. Pour l'essentiel, je ne me souciais pas du passage des heures. Le jour progressait comme pour éclairer un de mes labeurs. Le matin était là, puis au miracle, c'était déjà le soir et rien de mémorable n'avait été accompli. Au lieu de chanter comme les oiseaux, je souriais devant ma perpétuelle bonne fortune.
Je prends le train souterrain avec le poids des
Alors, bienvenue en toute simplicité. C'était le chemin fer souterrain de Richard Séguin. J'ai commencé avec cette pièce de musique-là parce que j'ai tantôt, à Québec Réveil, on avait une entrevue avec Webster qui nous parle beaucoup de, entre autres, de tout le phénomène de l'esclavage aux États-Unis et au Canada. Et Thoreau était un grand anti-esclavagiste. Il y a toute une histoire autour de... Il a écrit des textes qui ont eu un impact assez important sur la lutte à l'esclavagisme. Bref, j'en discutais avec Webster quand il est sorti de l'émission. Et puis, on s'est dit qu'on ferait une émission sur... l'implication de Thoreau là, dans le phénomène d'anti-esclavagisme et du chemin de fer souterrain, parce que Thoreau faisait partie du chemin de fer souterrain. Il a hébergé des fugitifs, il les a aidés à se rendre aux États-Unis. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la dernière émission de la saison dans toute simplicité. Cette année, on va recommencer en septembre et comme on devrait avoir une entrevue avec en début de saison avec Webster sur l'aspect anti-esclavagiste qui est quand même assez important dans l'œuvre de Thoreau. Et d'ailleurs, c'est un extrait de Walden, comme d'habitude, que je vous ai lu en début d'émission. Maintenant, dans les actualités... j'ai un texte dans Le Devoir d'aujourd'hui. Le pire scénario s'éloigne, mais pas la crise climatique. Les lueurs d'espoir devraient nous pousser à accélérer nos efforts, pas les ralentir. C'est un texte de Johan Bourgoin, auteur et biologiste de formation, chroniqueur et militant environnemental. En septembre 2024, l'auteur nous dit qu'il publie un texte intitulé « Une lueur d'espoir qui ne doit pas nous faire baisser la garde ». J'y écrivais que malgré des signes encourageants laissant entrevoir une éventuelle baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre, serait dangereux d'y voir une raison de ralentir nos efforts climatiques. Or, voilà qu'à peine quelques mois plus tard, une récente étude publiée dans la revue Geoscientific Model Development est déjà utilisée par certains à tort pour laisser croire que les politiques climatiques actuelles auraient été bâties sur des scénarios trop alarmistes. Il n'en fallait pas plus pour que cette étude soit rapidement reprise, entre autres par le mouvement climato-sceptique. Plusieurs publications relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias, y compris par des personnalités éduquées et influentes, affirment que l'ONU reconnaît désormais que les scénarios climatiques les plus alarmants seraient devenus improbables. Certains en profitent même pour remettre en question des politiques publiques comme la tarification du carbone ou les stratégies de réduction des émissions, pourtant mises en place précisément pour éviter les scénarios les plus extrêmes. Voilà un sérieux raccourci par rapport à ce que dit réellement l'étude. Au cœur de cette controverse se trouve le fameux scénario SSP5, 8.5, une trajectoire d'émissions extrême élaboré il y a plus d'une décennie. Il reposait notamment sur une expansion massive et prolongée de l'utilisation du charbon à l'échelle mondiale. Ce scénario est jugé aujourd'hui moins plausible, en partie parce que le développement des énergies renouvelables, les véhicules électriques et certaines politiques climatiques ont ralenti la croissance. Anticipée des émissions. Faut-il s'en réjouir jusqu'à un certain point? Oui, le monde ne suit probablement pas le pire chemin imaginable. C'est une bonne nouvelle, mais transformer cette nuance scientifique en une quelconque preuve que la crise climatique aurait été exagérée constitue un dangereux raccourci intellectuel. On en avait déjà parlé au début de cet automne avec notre ami Jean, j'oublie son nom de famille, Jean Nolette, c'est ça, qui, lui, va chaque année à la COP, et puis il nous disait que, les scénarios extrêmes de apocalyptiques, on semblerait qu'on va les éviter parce que Entre autres, la Chine a fait des grands efforts pour réduire ses émissions, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même... on n'est pas sorti du bois, comme on dit. On dit que les conséquences associées à un réchauffement de 2 ou 3 degrés demeurent immenses. Alors, on n'atteindra peut-être pas 6, 7 qui sont absolument apocalyptiques, mais 2 ou 3 degrés, c'est quand même, ça va changer notre monde. Vagues de chaleur extrême, incendies plus fréquents, perte massive de biodiversité, perturbations agricoles, montée du niveau des mers et pression croissante sur les infrastructures et les systèmes de santé, pour ne nommer que quelques exemples. D'ailleurs, le principal auteur de l'étude, lui-même climatologue néerlandais, dénonce les interprétations trompeuses circulant autour de ses travaux. Et il a raison, car voilà le paradoxe. Si certains scénarios catastrophiques deviennent aujourd'hui moins plausibles, c'est justement parce que des gouvernements, des entreprises et des sociétés ont commencé, imparfaitement, mais réellement, à modifier leur trajectoire énergétique, à mettre en place certaines politiques, impopulaires peut-être, mais efficaces. Utiliser ensuite ces progrès pour justifier un recul des politiques climatiques revient un peu à abandonner un traitement parce qu'il commence enfin à fonctionner. Ce serait une erreur médicale. C'est aussi une erreur politique. C'est dans le devoir d'aujourd'hui. Aussi, il y a quelques articles que j'ai retenus. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Dans le devoir de mercredi, on dit que Québec et Ottawa reculent sur la protection du chevalier cuivré. Le gouvernement du Québec et du Canada ont décidé de sabrer dans des mesures de protection du chevalier cuivré, une espèce au seuil de l'extinction, a appris le devoir. Cette décision survient alors que le fédéral est poursuivi pour avoir autorisé le port industriel de Contrecoeur à détruire une partie de l'habitat essentiel à la survie de ce poisson qui existe uniquement au Québec. C'est un très beau poisson. C'est vraiment dommage que on abandonne la protection chevalier cuivré. Là, on semble dire qu'on va faire de la reproduction artificielle. En tout cas, il y a une autre frayère aussi, une de ces frayères qui est considérée comme la plus importante, se situe dans un secteur désigné comme refuge faunique Pierre-Étienne Fortin au rapide de Chambly. Or, même si la protection de cet écosystème est cruciale pour la survie du chevalier cuivré, le devoir a appris que le gouvernement fédéral a décidé de supprimer le financement qui était accordé pour la surveillance de ces milieux protégés. En tout cas, c'est un peu dommage, là. Ensuite, ben, le Canada fait vraiment un virage là, au niveau fossile. Alors, dans le devoir de jeudi, Ottawa a versé 10 milliards en aide à l'industrie fossile en 2025. La promesse de mettre fin au financement public de ce secteur polluant formulé en 2021 a disparu de la plateforme libérale l'an dernier. C'était dans le devoir de jeudi. Puis, dernier texte dans le devoir, c'est que j'ai retenu, c'est pour ceux que ça intéresse, refaire de Montréal un grand garde-manger, des melons de Montréal aux patates en chapelet, les semences ancestrales québécoises pourraient retrouver leur vocation nourricière. On parle de la ferme Les Bonnets Bleus, là où les chevaux couraient autrefois dans l'hippodrome de Blue Bonnets à Montréal. Justine Sénéchal couvre ses yeux ses petits plants de melons de Montréal qui ont commencé à poindre à l'abri d'une serre. Alors, ce fameux melon de Montréal qui se vendait autrefois à prix d'or dans les restaurants de Boston et New York avait complètement disparu des mémoires jusqu'à ce qu'il réapparaisse récemment après beaucoup de recherches et d'expérimentations. Jusqu'au milieu du 20e siècle, il poussait précisément ici, dans les grandes terres de Côte-des-Neiges, qui couvraient ce qui est aujourd'hui l'autoroute des Caries. Anecdote intéressante, dans l'article, on nous dit que la Côte des Neiges, le nom de la Côte des Neiges, ça n'a pas rapport à la neige. Il semblerait que ça a le rapport aux travailleurs agricoles qui avaient un gilet blanc puis qui travaillaient. C'était comme une pente un peu, là, qui avait beaucoup de fermes à l'époque, là, et ça donnait l'impression de bancs de neige. Mais c'était le nom Côte des Neiges vient des gilets blancs, des travailleurs qui cultivaient les fermes qu'il y avait là à l'époque. Ensuite de ça, j'ai un article dans le dernier Sciences humaines. Très bon numéro de Sciences humaines. C'est le numéro d'avril 2026 qui est en kiosque actuellement. C'est un numéro sur l'IA. L'IA est-elle bonne psy? Il y a plusieurs articles sur l'intelligence artificielle, mais il y a aussi un article que j'ai retenu, c'est sur Rachel Carson, pionnière d'écologie, souvent considérée comme la mère des mouvements écologistes. Rachel Carson a joué un rôle capital dans la prise de conscience des problèmes environnementaux, tout en suscitant de vifs débats jusqu'à aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de taureau à l'émission en toute simplicité parce que c'est un peu le père de, je dirais, l'écologie moderne. Mais Rachel Carson, elle, on pourrait dire que c'est la mère de l'écologie, plus on dirait comme environnementaliste. Alors, au printemps de 1962, Rachel Carson travaille seule dans sa maison de Silver Spring, dans le Maryland, affaiblie par un cancer du sein. Autour d'elle s'accumulent notes, rapports et correspondances scientifiques. Elle sait que l'ouvrage qu'elle est en train d'achever déclenchera une tempête. Depuis des années, elle observe avec inquiétude la raréfaction des oiseaux et l'usage toujours plus massif de pesticides. Pour elle, ces deux phénomènes ne sont pas indépendants. C'est ce lien qu'elle met en récit dans Printemps silencieux, qui est un grand, grand classique de l'écologie. C'est un beau livre. Madame Carson, elle voulait faire une carrière dans la littérature, mais on lui avait conseillé plutôt d'étudier la biologie. Alors, elle est devenue biologiste. Alors, une grande expertise au niveau de la biologie. Mais elle écrivait très bien. Ses livres sont très beaux. Moi, j'ai la version originale en anglais, qui est magnifique, avec des beaux dessins à l'intérieur. Puis c'est bien écrit. Alors, Printemps silencieux, c'est un grand classique d'écologie qui a été publié en juin 1962. Le livre fera date, comme l'écrit en 1994, Gore, alors vice-président des États-Unis, dans l'introduction de sa réédition. Sans ce livre, le mouvement écologiste aurait pu être largement retardé, tout simplement ne jamais avoir vu le jour. Une reconnaissance éclatante pour cette pionnière de l'écologie qui se destinait pourtant à l'origine à toute autre voie. Et entre autres, si vous allez sur YouTube, il y a des vidéos. Elle avait attiré l'attention du président Kennedy à l'époque. Et puis, il y a un journaliste qui lui demande « Est-ce que vous avez entendu parler du livre de Mme Carson qui parle des méfaits du DDT, qui est le fameux insecticide, pesticide? » Et M. Kennedy avait répondu que oui, il avait lu le livre et qu'on allait enquêter là-dessus. Le Congrès allait vérifier si c'est vrai. Puis par après, ben le DTT a été interdit malgré les très grandes résistances de l'industrie qui en tout cas, c'était très payant. Le DTT, c'était comme le produit miracle, mais qui détruisait la vie. Alors, c'est un beau texte là, pour ceux qui s'intéressent à l'origine de l'écologie. C'est dans le Sciences humaines. Sinon, ben le livre de Mme Carson, Printemps silencieux, je vous le recommande vraiment. C'est un beau livre. Dernière chose auquel je voulais vous attirer votre attention, c'est dans le dernier Philosophie magazine, la thématique, c'est comment bien se disputer. Les Français sont experts là-dedans, il y a plusieurs textes là-dessus. En passant, Philosophie magazine va fêter ses 20 ans cette année. Philosophie magazine, c'est vraiment un lieu public de réflexion que je trouve vraiment... formidable pour moi, entre autres, pour le qui s'intéresse à la philosophie. Mais je vous recommande vraiment de lire cette revue-là. C'est mérite d'être encouragé pour leur travail. Une revue de philosophie, mais c'est comme ça. C'est un lieu public de réflexion. Et le prochain numéro, je pense que ça sera le numéro de mai. Et si je ne me trompe pas, le suivant qu'on devrait avoir en juillet, on les a toujours comme un mois en retard, ce sera le numéro spécial du 20e anniversaire qui sera vraiment intéressant. En tout cas, il faudra suivre ça. C'est au début juillet, Philosophie Magazine. Là, je vous lis un extrait dans le dernier Philosophie Magazine. Gaspard Koenig, qui était un écologiste, qui a écrit le livre Humus, on en avait parlé à l'émission. C'est un auteur français dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Alors, il dit, Gaspard Koenig, je me souviens de ma rencontre en 2018 avec Jaron Lanier, un penseur très aigu du numérique. Il venait de publier un essai intitulé Stop aux réseaux sociaux. À l'époque, j'étais très actif sur Twitter. Je pensais que j'avais besoin de rester en contact avec mes lecteurs. J'alimentais en permanence mon réseau. Mon cerveau était boosté par les likes, les commentaires. Sur les conseils de Lanier, j'ai quitté les réseaux sociaux et cela m'a libéré. Je n'aurais pas eu l'évolution actuelle, intellectuelle, qui a été la mienne, notamment sur l'écologie, si j'y étais resté. Cela m'a permis d'accéder à des informations et des idées qui contredisaient ma pensée. Mon second conseil pour faire vivre la discussion, c'est de se mettre en mouvement. Les Grecs de l'Antiquité menaient leurs conversations comme cela. Les dialogues socratiques l'attestent. Le Phèdre, où les interlocuteurs changent tout le temps d'avis, est une promenade le long de l'Ilissos, le fleuve bordant Athènes. Cela m'a incité à organiser des randonnées philosophiques en montagne. Quand on est assis autour d'une table, chacun reste campé sur son opinion, mais dès qu'on bouge, on fait place aux objectifs. Comme le dit Montaigne, mes pensées d'homme, si je les assis, mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent. Alors, c'est dans le dernier Philosophie Magazine que je vous recommande. Il y a aussi en kiosque le Hebdo, le 1, qui est en train de sortir une série de grands penseurs du penseur moderne, on pourrait dire. Alors, il y a eu un numéro sur Marx il y a deux semaines. Il y a eu un numéro sur Freud. Et actuellement, en kiosque, c'est sur Nietzsche. Alors, ça, c'est des petits journaux qui ne coûtent pas cher. Puis c'est bien fait. Puis ça vous donne un survol de la pensée de ces penseurs-là. Alors, on prend une pause musicale. Au retour, je vais revenir, je fais un peu un retour avec cette émission-ci, là, un retour sur la saison dernière. Et on va parler de Jacques Sénécal au retour.
Patience. Aïe, aïe, aïe. et moins il donne. Le conquérant qui réquisitionne sciences ancestrales et traditions, les traites de superstition. Il veut niveler l'autre culture à force de coups et de blessures. L'Indien le met sous surveillance, cet homme blanc qui est sans patience. Sonne et où le tonnerre résonne pour les terres en spéculation, les mers en surexploitation, le capital en démesure se garde la planète en peinture. L'Indien fait preuve de résistance devant l'homme blanc qui est sans patience. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, y a plus d'une voix qui dit respecte la vie. Respecte la vie. Respecte la vie. Hi, hi, hi.
C'était Jean Marc Aurel, Respecte la vie, son album Jean l'Amoureur. Alors, c'est ça, je ne pouvais pas faire autrement que de parler de Jacques Sénécal, qui nous a quittés malheureusement là, cet automne. Jacques, il a fait la première émission cette année en toute simplicité, puis il est décédé là, 2 mois plus tard. Il me disait que c'est de justesse là, qu'on a pu l'avoir là, en début de saison. Là, il était très malade. Et Jacques, ça a été mon compagnon de route en toute simplicité depuis presque le début. Et qui nous accompagnait, il nous a donné plein d'entrevues sur toutes sortes de philosophes. D'ailleurs, il a écrit un livre sur le bonheur philosophique ou le bonheur philosophe. Oui, le bonheur philosophe qui est malheureusement épuisé, qui n'est plus trouvable. Là, si vous trouvez ça, c'est un beau petit livre là, qui c'est un survol de tous l'histoire de la philosophie, dans le fond. Et j'ai son dernier livre ici, ou un de ses derniers livres, Philosophie occidentale et sagesse orientale, qui a publié en 2017. Et j'ai le goût de vous lire quelques extraits de son livre. On va finir la saison avec Jacques Sénécal. On l'a commencé avec lui. Puis on va la terminer avec lui. Mais l'émission n'est pas terminée, là, mais je vais vous lire quelques extraits de son livre « Philosophie occidentale et sagesse orientale ». Est philosophe cette personne qui, se sachant en route, veut savoir où elle va. Elle ose sortir de son train-train pour examiner au loin s'il y a un but ou simplement une destination. D'où venons-nous et où allons-nous? Des questions qu'on se pose tous universellement. Le philosophe désire savoir et il aimerait connaître les réponses à ces questions. Il veut la vérité, mais l'horizon cache tout. Il faut donc imaginer ou supposer pour répondre. C'est ainsi que les réponses proposées par les philosophes sont multiples. Cependant, il est possible de regrouper sous des constantes ou dans des ensembles les explications qui se dégagent des diverses réflexions exprimées au cours de l'histoire. Or, on constate, à l'examen des différentes doctrines sur ces problèmes profondément humains, des différences majeures entre celles venant de l'Occident et celles venant de l'Orient, d'où le titre de cet ouvrage « Philosophie occidentale et sagesse orientale ». D'origine grecque, le mot « philosophie » a eu, malgré son étymologie, des sens très différents dès le départ. Et si encore de nos jours, il n'y a pas de consensus sur la définition du mot, entre philosophes occidentaux, on s'entend comme si on faisait partie d'une grande famille ou d'un corps de métier qui utiliserait les instruments d'une même boîte à outils. En Orient, le terme sanskrit, prajna, se traduit par « sagesse transcendante ». Est une notion fondamentale plus que millénaire et répandue du bouddhisme à l'hindouisme ou son équivalent. Dans toutes les pensées orientales, ce n'est qu'au 20e siècle que les Japonais et Chinois ont proposé un terme qui correspond à notre philosophie, tetsugaku en japonais et zeksue en chinois, qui signifie « étude de la sagesse ». Pourquoi philosophie et sagesse? Cet essai a pour objectif d'approfondir cette distinction. Alors, c'est l'introduction du livre. Et je veux vous lire un extrait du chapitre sur le bonheur. Un instant. Alors, le bonheur sur homme, zombie ou contemplatif. Notre bonheur, un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections. Ça, c'est Leibniz, puis on a un extrait de Prajnanpad. Dites oui à tout, ne refusez rien. Le bonheur est du côté de l'approbation, du don et de la compassion. Dans la philosophie grecque, le but de la vie humaine est le bonheur. Aristote, qui s'adresse, faut-il le dire, aux gens bien éduqués, nobles et citoyens, libres athéniens qui ont une vie active, est très clair sur ce point. Au sommet, il y a la contemplation intellectuelle. Pour l'homme, la vie spéculative, c'est l'excellence dans le bon exercice de son essence ou de sa nature, c'est-à-dire du pouvoir de sa raison. En philosophe réaliste, Aristote conçoit le bonheur humain, ici-bas, comme possible et même naturellement désirable. Cependant, on ne peut l'atteindre que par la pratique des vertus morales et intellectuelles, lesquelles exigent des conditions comportementales et sociales de base. L'amitié, la civilité, un affranchissement du travail servile et un relâchement des passions. Le bonheur, c'est plus compliqué qu'on pense. Et tous les philosophes importants qui ont réfléchi sur le bonheur le démontrent à leur manière. Prudence, discipline, effort désintéressé, assiduité de la pratique des vertus, exercice spirituel, vigilance, scepticisme, tempérance, introspection, autarcie, connaissance, toute conduite guidée par la raison, bref, un travail ardu. Spinoza termine son éthique ainsi, et cela, certes, doit être ardu, qui est trouvé si rarement. Comment serait-il possible si le salut était sous la main et si l'on pouvait y parvenir sans grand-peine, qu'il fût négligé par presque tous? Mais tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Le bonheur, celui de ceux et celles qui y ont réfléchi, ne serait donc accessible qu'à une petite minorité. Le sommet de la pyramide de Maslow, l'accomplissement de soi, difficile autant que rare, ne serait pas accessible à tout le monde, quoi qu'on dise. En tout cas, c'est un beau livre que je vous recommande. Notre ami, notre collaborateur, Jacques Sénécal, là, qui nous a quittés cet automne. Et puis, il y a eu justement la cérémonie funèbre de Jacques samedi dernier, là, à Trois-Rivières. Alors, petite pensée pour Jacques, que je remercie pour toutes ces années de collaboration. Alors, on prend une autre petite pause musicale. Pour retour, on va parler d'un autre philosophe qu'on a abordé à l'émission, qui nous a quittés cette année, là, Thomas de Coninck.
Thank you.
C'était un extrait de Holst, Les planètes, la planète Vénus. Alors, c'est un autre philosophe que je voudrais rappeler, dont on a parlé beaucoup cette saison, entre autres la semaine dernière, puis un peu avant, avec Jean Désy, qui est venu faire au moins deux émissions sur Thomas de Coninck. J'en avais parlé aussi un peu plus tôt, qui nous a quittés cet hiver. Thomas de Coninck, il était associé au Petit Prince à cause de l'anecdote là, que Saint-Exupéry avait rencontré Petit Prince à peu près au moment où il rédigeait... Petit Prince, je veux dire, il avait rencontré Thomas de Coninck à peu près au moment où il rédigeait le Petit Prince. Alors, on a souvent pensé qu'il y avait eu un lien avec entre M. de Coninck et le Petit Prince, comme une légende urbaine. Mais il y a un peu de vrai là-dedans, mais c'est peut-être un peu exagéré. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec, pour ceux qui s'intéressent, là, avec Jean Désy. On a fait toute une émission justement sur le Petit Prince. Alors, je vais vous faire une petite lecture d'un livre de M. de Coninck qui a été publié en 2000, qui s'appelle « La nouvelle ignorance et le problème de la culture ». Quand M. de Coninck réfère à l'ignorance, il réfère à Socrate, qui disait que nous sommes la nature, c'est de la nature humaine d'être ignorant, mais faut pas s'en faire avec ça, c'est normal. Fondamentalement, l'humain, nous sommes ignorants, mais ce qui est mauvais, c'est d'être ignoré qu'on est ignorant. Alors, faut pas trop se prendre au sérieux ce qu'il voulait dire, mais par contre, ce que Socrate nous recommandait, c'est de devenir des philosophes, s'intéresser à la sagesse, s'intéresser à la vie, réfléchir à sa vie, apprendre à se connaître. Alors là, on devient moins ignorant. Alors, je vous lis un petit extrait de « La nouvelle ignorance et le problème de la culture » de Thomas de Coninck. « Il existe en réalité deux formes d'ignorance qu'on pourrait qualifier de nouvelles, mais qui sont diamétralement opposées. La première ouvre et libère, la seconde emprisonne et tue. La première, qu'il faut célébrer, se traduit par de nouvelles interrogations suscitées par de nouvelles découvertes. Elle est le moteur de toutes les avancées du savoir. La seconde fait au contraire vivre dans l'illusion qu'on sait alors qu'on ne sait pas et s'apparente à ce que Platon appelait la double ignorance, dénoncée et combattue jadis sous sa forme primitive par Socrate. Elle est revenue aujourd'hui en force, à l'instar de ces anciennes maladies infectieuses dont les bactéries parviennent à s'adapter et à résister aux remèdes les plus puissants dont on constate aujourd'hui les grands retours. C'est cette dernière qui est notre sujet et que nous appelons, pour faire court, la nouvelle ignorance. Mais si elle a le caractère d'une résurgence, qu'a-t-elle à proprement parler de nouveau? Déjà, on reconnaissait en la double ignorance. Déjà, on reconnaissait la double ignorance la plus grave et la plus endémique d'entre les ignorances, la plus farouchement résistante, la cause de tout ce qui se fait de mal. Et plus les sujets en jeu sont importants, plus elle est malfaisante et honteuse, car non seulement tu ignores les choses les plus importantes, mais tout en les ignorant, tu crois les savoir, disait Socrate à Alcibiade. Aussi, tu cohabites, mon pauvre ami, avec la pire des ignorances. C'est ton propre discours qui t'accuse et toi-même. Et voilà pourquoi tu te jettes dans la politique avant d'avoir été éduqué. Elle est la cause de toutes les erreurs auxquelles notre pensée à tous est sujette, car elle définit l'amatia, la bêtise, la paideusia, l'inculture, de ces prisonniers qui, enchaînés depuis longtemps au fond d'une caverne, y sont devenus experts en nombre et contents de l'être à force de ne rien connaître d'autre. On fait référence ici à la caverne de Platon. Ce qui est nouveau, ce sont les formes inédites plus redoutables qu'elle revêt aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est l'esprit d'abstraction dont notre puissance technicienne décuple désormais l'influence. Ce qui est nouveau, c'est l'autodestruction universalisée de la culture qui a pour corollaire la violence. car l'alternative low-cost violence est inéluctable. Il n'est pas d'autre voie que celle ou bien de la culture ou bien de la violence. Les Grecs en ont fait la démonstration, l'expérience de millénaires le corrobore. Dans la mesure où le logos fait défaut, la violence croît. Logos, c'est la raison, hein, qui est l'outil des philosophes. Le vide, l'ennui, l'indifférence à la vie, le fanatisme qui entraîne la destruction de la culture ou des conséquences incalculables. Le paradigme a été fourni par Auschwitz. Le Kosovo et les autres drames moins médiatisés, mais tout aussi atroces de la fin du 20e siècle, seront à coup sûr suivis d'autres calamités humaines du même mode, aussi sûrement que les tueries, les tortures et les génocides du Rwanda ou de la Bosnie ont suivi ceux du Cambodge et les goulags soviétiques et chinois. Même si les idéologies meurtrières ou les prétextes couvrant la haine peuvent parfois différer du tout au tout dans leur formulation. La cause profonde de la culture de mort dans laquelle nous sommes est l'ignorance de l'humain et de sa dignité. Tant qu'on n'en aura pas pris vivement conscience, les atrocités et les catastrophes humaines iront croissant. Tant que la cause durera, que la nouvelle ignorance, en somme, ira s'aggravant, ses effets se reproduiront et s'intensifieront. Alors, c'est dans la nouvelle ignorance de Thomas de Coninck. Alors, prends une dernière petite pause musicale. Pour retour, ben, je vais terminer avec des extraits de Colette Poggi, Toro Yogi des Bois. C'était un extrait de la pièce Incantation de paix C'est Bernard Bosa. L'album s'appelle Transformation. Bernard Bosa, B-O-S-A. Le son des origines. Alors, pour terminer l'émission, je termine avec Taureau, qui est un peu notre mentor, on pourrait dire en toute simplicité. C'est extrait du livre que je vous recommande vraiment. C'est un livre de Colette Poggi, P-O-G-G-I, Taureau Yogi des Bois. Ça rejoint un peu ce qu'on parlait aussi tantôt avec Jacques Sénécal, philosophie occidentale et sagesse orientale. Un des premiers philosophes au 19e siècle à avoir fait le pont entre les deux. Il s'intéressait autant à la philosophie occidentale qu'il connaissait très bien à la philosophie orientale. C'est très bien présenté dans son livre de Madame Poggi, Taureau Yogi des Bois. Alors, je vous lis l'extrait. L'arbre, symbole de l'unité cosmique. Humus, humain, humanité, trois termes de même origine. L'humus, la terre en latin, est le résultat de la décomposition des matériaux organiques dans le sol, ce qui contribue à sa fertilité. De l'humus naissent les arbres et des arbres naît l'humus. Taureau honore ces êtres majestueux, emblématiques de la biosphère, comme les yogis de l'Inde vénèrent la déesse Budévi, divinité de la terre et de la vie. L'arbre n'est pas seulement à ses yeux un végétal, un élément anonyme du paysage. Chacun est doté d'une personnalité unique avec laquelle il tisse un lien original, originel. À la manière des yogis, il entretient pour eux un sentiment d'interconnexion et d'unité qui prend sa source aux origines de la culture indienne. Avant-coureur de la conscience écologique, il perçoit, grâce à sa sensibilité intuitive, le rôle fondamental que jouent les arbres pour l'équilibre naturel. Si vulnérables, menacés de crises aiguës dans l'ère actuelle du Kali-Yuga. Converser avec un arbre. Amoureux du silence, Taureau ne cesse d'échanger avec les arbres. Une conversation sans égo dans laquelle la parole, le souffle sont sacrés. Alors, on cite ici un extrait de Walden. « Au lieu de faire visite à quelques savants, j'allais souvent voir des arbres particuliers, espèces rares dans le voisinage, qui étaient soit au milieu de quelques pâturages au loin, ou dans les profondeurs d'un bois ou d'un marécage, ou sur la cime d'une colline, comme le bouleau noir. Son cousin, le bouleau jaune, avec son manteau doré flottant, embaumé comme l'autre. Le hêtre au tronc si noble, si bien revêtu de lichen, le tilleul, le charme, le celtis occidentalis aux faux ormeaux dont nous n'avons qu'un beau spécimen de pin, un pin haut comme un mât, un chêne laurier ou quelques sapins du Canada, plus parfait que de coutume. Debout comme une pagode au milieu des bois. C'était là des sanctuaires que je visitais été comme hiver. » Alors, on termine la saison comme ça. Alors, je vous souhaite à tous un bon été et on se revoit en septembre. Bon été, bonne journée et à la prochaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouf. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
Salut, c'est François Laplace, boutique gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment? Si t'achètes une carte cadeau de 20 $, nous, on va la bonifier en ajoutant 5 cafés. Comme ça,